Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'hypoparathyroïdie et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Emeline Marquand. Docteur Marquand, bonjour.
Bonjour.
Docteur Marquand, vous êtes endocrinopédiatre au sein du service de pédiatrie multidisciplinaire de l'hôpital de la Timone Enfant à Marseille et vous êtes également coordonnatrice médicale pédiatrie du centre de compétences maladies rares du métabolisme du calcium et du phosphate de Marseille sous l'égide de la filière OSCAR. Alors aujourd'hui, docteur Marquand, nous allons évoquer l'hypoparathyroïdie chez l'enfant. Et pour débuter notre entretien, quelles sont les spécificités de cette maladie rare chez l'enfant?
Alors cette maladie rare peut en effet être diagnostiquée de la naissance jusqu'à la fin de la vie. Donc elle concerne tous les professionnels. En pédiatrie, il y a deux périodes qui sont majoritairement à risque de découvrir une hypoparathyroïdie. Il s'agit des périodes en fait de forte croissance où les besoins sont élevés en apport calcique. Donc il y a la période de la toute petite enfance, de 0 à 2 ans, et la période de l'adolescence, notamment au moment de la puberté où les besoins sont accrus. Une deuxième particularité, c'est que en pédiatrie, nous avons très souvent à faire face à une origine génétique. C'est-à-dire que chez l'adulte, il y a un grand nombre d'hypoparathyroïdies qui sont lésionnelles ou post-chirurgicales, alors que chez l'enfant, c'est une origine congénitale et génétique qui est la plus fréquente, avec une atteinte le plus souvent de l'embryogenèse des glandes parathyroïdes. Cela ne veut pas forcément dire que la découverte de l'hypoparathyroïdie est précoce, car la découverte de ses causes génétiques peut également être faite plus tard dans la vie, c'est-à-dire passer inaperçu tout au long de l'enfance et être découverte à l'âge adulte. Enfin, il y a un lien important entre le bilan phosphocalcique maternel et celui du nouveau-né. En fait, en période néonatale, on peut avoir à faire face à une hypoparathyroïdie qui soit transitoire. En cas notamment d'hypoparathyroïdie maternelle déjà diagnostiquée ou même en cas d'hyperparathyroïdie primaire chez la maman, puisque le niveau de calcémie sanguine de la mère peut en fait freiner le fonctionnement des parathyroïdes fœtales et entraîner une hypoparathyroïdie postnatale.
Et pour les auditeurs qui nous écoutent, notamment les pédiatres, qu'en penser à une hypoparathyroïdie chez les enfants?
Il faut surtout y penser lorsqu'il y a des signes cliniques qui sont présents, mais il faut aussi dire d'emblée que bien souvent, on peut avoir aussi une découverte qui soit fortuite devant un patient qui est asymptomatique. Il y a moins de bilans systématiques qui sont réalisés chez les enfants, donc la proportion de découvertes asymptomatiques est moins fréquente que chez l'adulte, mais tout de même, il faut savoir y penser. Donc les signes cliniques de l'hypocalcémie, ils sont tout à fait dépendants du niveau de calcémie sanguine et notamment de calcémie ionisée, et ils peuvent être très variables en fonction du niveau de calcémie. Ces signes, ils sont également plutôt peu spécifiques, d'où la difficulté finalement du diagnostic. Donc au niveau de la symptomatologie clinique pure de l'hypocalcémie, on peut avoir des symptômes bruyants en cas d'installation aiguë, par exemple des malaises du nourrisson, des convulsions. Donc on entend surtout les convulsions à froid, c'est-à-dire pour différencier des convulsions fébriles. Il peut y avoir des troubles du rythme cardiaque ou un laryngospasme. Ça, c'est vraiment les conditions en cas d'apparition brutale de l'hypocalcémie profonde. En cas d'installation chronique, et c'est le plus souvent le cas dans les causes d'origine congénitale ou génétique, l'hypocalcémie peut être profonde, mais l'installation chronique entraîne finalement des symptômes qui sont plus modérés. Donc, il peut y avoir des troubles de l'excitabilité neuromusculaire avec des crampes, des tétanies. Il peut aussi se passer cela au niveau des muscles oculomoteurs, donc avec parfois des troubles de l'oculomotricité qui entraînent des troubles de la vision. Il peut y avoir donc des troubles du rythme cardiaque avec un allongement du QT. Et puis, au-delà de cette symptomatologie clinique de l'hypocalcémie, on peut aussi faire face à des complications chronique de cette hypocalcémie. Il peut y avoir au niveau ophtalmologique une cataracte congénitale. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de totalement inhabituel et qui doit amener à un dosage de calcémie sanguine. Il peut y avoir des anomalies dentaires avec des caries fréquentes, une hypoplasie de l'émail. Il peut y avoir également des calcifications de plusieurs organes dans le corps, mais notamment du système nerveux central avec le syndrome de Pharr qui témoigne de la chronicité de l'hypocalcémie. Et enfin, au niveau radiologique, Il peut y avoir une ostéocondensation avec des corticales épaisses et des bandes denses métaphysaires. Alors, c'est rare également que des examens radiologiques soient proposés de façon systématique en pédiatrie, mais disons que s'il y a une autre raison de faire une radio et que ces signes sont remarqués, bah, il faut aussi informer les radiologues pour qu'ils puissent revenir vers le clinicien et à ce moment-là doser une calcémie sanguine chez ce patient. Enfin, au-delà de la symptomatologie, il faut également penser à une hypoparathyroïdie chez un enfant en fonction du contexte. C'est-à-dire, si sur le plan familial, il y a déjà une maladie héréditaire du métabolisme phosphocalcique qui est connue, bien sûr que le dépistage doit se faire au plus jeune âge pour ces pathologies. Et puis, s'il y a à la naissance un contexte syndromique qui est diagnostiqué, puisqu'on verra que dans les causes d'hypoparathyroïdie, il y a de nombreux syndromes dans lesquels d'autres atteintes somatiques sont présentes. Et donc, si on diagnostique, par exemple, une atteinte cardiaque typique d'un syndrome de Digorge, eh bien, il va falloir aller chercher l'hypoparathyroïdie associée.
Et donc, en cas de suspicion, comment est-ce qu'on effectue le diagnostic et quels sont les diagnostics différentiels à écarter?
Alors, le diagnostic d'hypoparathyroïdie, c'est un diagnostic purement biologique. Il va s'agir de prélèvements sanguins et urinaires. Donc, sur le plan sanguin, il va falloir doser la calcémie à jeun, avec un bémol quand même chez le nouveau-né, hein, qui a une alimentation très fréquente. Donc, il n'est pas obligatoire que la calcémie soit réalisée à jeun. Donc, une hypocalcémie inférieure à 2,1 millimol par litre va être évocatrice, accompagnée d'un dosage concomitant de parathormones qui va être basse ou bien normale. C'est-à-dire que si en situation d'hypocalcémie, une parathormone est dosée normale, elle est inadaptée au niveau de calcémie et on considère que ces deux éléments-là font le diagnostic d'hypoparathyroïdie. Il y a aussi de manière associée une phosphatémie à jeun qui va être élevée et une magnésémie normale. C'est important de vérifier la normalité de la magnésémie car une hypomagnésémie peut mimer en fait une hypoparathyroïdie sans que celle-ci soit réelle. Enfin, au niveau urinaire, il faut doser une calciurie et une créatininurie sur échantillon. Chez l'enfant, l'échantillon suffit, contrairement aux adultes où souvent on demande un examen sur les 24 heures. Et cette calciurie, rapportée à la créatininurie, va être le plus souvent très inférieure au seuil admis pour l'âge, ce qui est adapté à la situation d'hypocalcémie sanguine. En cas d'hypercalciurie ou de calciurie normale, cela doit nous faire évoquer certaines causes particulières, notamment la mutation du récepteur sensible au calcium, ou CASR. Au-delà de cette biologie qui va être pratiquée pour l'enfant pour lequel il y a une suspicion d'hypoparathyroïdie, il est très important, notamment lorsque l'hypocalcémie est découverte en période néonatale, de réaliser un bilan sanguin aux deux parents. Puisque je le vous disais tout à l'heure, il y a un lien important entre le bilan maternel et le bilan du nouveau-né. Et également, le père peut également être porteur d'une anomalie congénitale du métabolisme phosphocalcique, mais qui soit méconnue, puisque on a dit tout à l'heure que les symptômes pouvaient être absents, voire très modérés. Pour le diagnostic différentiel, quand le tableau biologique est typique tel que je l'ai présenté, l'hypoparathyroïdie est diagnostiquée, et c'est plutôt l'étiologie de l'hypopara qui va être à discuter. Et là, il y a différentes analyses génétiques qui vont être nécessaires en fonction de la présentation clinique du patient. Et donc, il y a des hypoparathyroïdies qui sont syndromiques, qui sont le plus souvent liées donc, à une atteinte de l'embryogenèse des parathyroïdes. La plus fréquente de ces atteintes syndromiques est le syndrome de Digorge, avec environ une naissance sur 4000 qui est affectée par ce syndrome. Il s'agit d'une délétion hétérozygote de la portion du chromosome 22, qui est la 22Q11Q13, et on peut la diagnostiquer en faisant une fiche 22Q11 ou une CGH arrêt en première intention. Dans le syndrome de Digorge, il y a des malformations cardiaques, une dysmorphie faciale, il peut y avoir une insuffisance vélo-pharyngée, donc, qui donne lieu à divers degrés de fente labiopalatine, et une agénésie du thymus peut également être possible. Tous ces symptômes peuvent être présents, mais ne sont pas nécessaires pour diagnostiquer le syndrome. Il y a parfois peu de manifestations cliniques et certains adultes peuvent avoir ce diagnostic tard dans la vie alors qu'ils n'ont pas présenté tous ces symptômes. Et enfin, dans les causes non syndromiques, donc une hypoparathyroïdie isolée sans autre anomalie décelée par ailleurs, va orienter vers certaines autres causes génétiques et notamment les hypocalcémies autosomiques dominantes. Donc dans ce groupe d'hypoparathyroïdie non syndromique, la cause génétique la plus fréquente est l'hypoparathyroïdie autosomique dominante par mutation du récepteur sensible au calcium, CASR, ou bien du gène GNA11. Et dans ce cas, il s'agit plutôt d'un défaut de production ou de sécrétion de la parathormone comparé aux causes syndromiques où c'était vraiment un défaut de l'embryogenèse. Concernant l'ensemble de ces causes génétiques, un arbre décisionnel a été proposé par la filière Oscar. Il est disponible en pièces jointes sur leur site internet et très intéressant à être consulté pour vous guider dans l'analyse génétique à réaliser en fonction du tableau des patients.
Et une fois le diagnostic établi, docteur Marquant, quelle prise en charge proposer aux enfants touchés ?
Alors, l'objectif de la prise en charge, c'est de trouver le traitement minimal efficace qui permette d'éviter les symptômes d'hypocalcémie et en même temps de limiter la survenue de complications liées au traitement. Et donc, cet objectif, en fait, c'est d'avoir une calcémie qui soit supérieure à 1,8 à 2 millimoles par litre. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une calcémie dans les normes pour être efficace en termes de clinique pour le patient. Donc, il faut différencier la prise en charge des situations aiguës et la prise en charge chronique tout au long de la vie. Dans les situations aiguës, il s'agit de l'hypocalcémie aiguë menaçante avec des signes cliniques bruyants. Donc, il faut réaliser en général une perfusion intraveineuse de calcium, puis un relais avec du calcium par voie orale. Il faut également corriger l'hypomagnésémie et l'alcalose qui, si elles sont présentes, vont aggraver l'hypocalcémie. Et enfin, donner de la vitamine D activée au patient et également de la vitamine D native pour restaurer un stock normal. Pour ce qui est de la prise en charge chronique tout au long de la vie, il va falloir assurer des apports calciques journaliers normaux. On va préférer les apports quotidiens dans l'alimentation classique, donc 2 à 3 produits laitiers par jour. Une évaluation peut être réalisée par la diététicienne pour adapter en fait ces apports calciques journaliers. Et puis, on va administrer des dérivés hydroxylés de la vitamine D. Chez plus de 90% des patients, ceux-ci sont nécessaires pour toute la vie. Et on va essayer de trouver la plus petite dose efficace pour maintenir une calcémie normale basse avec une calciurie normale. Enfin, il est important de maintenir un capital normal en vitamine D native ou 25-OHD en respectant les recommandations de supplémentation en vitamine D qui sont réalisées pour tous les enfants.
Et ensuite, quel suivi apporter à ces jeunes patients ?
Alors, il faut suivre l'efficacité du traitement en consultation, tout simplement en les questionnant sur les signes cliniques d'hypocalcémie, le but étant de faire disparaître tous les symptômes gênants. Une partie importante du suivi est de rechercher et d'éviter les complications du traitement. Donc, il faut réaliser un bilan sanguin selon l'âge, tous les 3 ou tous les 6 mois. En fonction des périodes de croissance, donc un bilan sanguin avec une calcémie, une phosphorémie, une créatininémie, des phosphatases alcalines pour évaluer le remodelage osseux et un dosage de vitamine D native une fois par an. Sur les urines, il va falloir doser la calciurie et la créatininurie de la même manière tous les 3 à 6 mois en fonction de l'âge et veiller à ce qu'il n'y ait pas d'hypercalciurie. Une échographie rénale est recommandée une fois par an pour dépister la néphrocalcinose qui serait associée à l'hypercalciurie. Et enfin, un examen ophtalmologique doit également être réalisé une fois par an afin de dépister l'apparition d'une cataracte. Au moment de la transition, il va falloir être particulièrement attentif, reprendre avec le jeune les circonstances du diagnostic, les mécanismes de sa pathologie, puisque cela a souvent été expliqué lors de la période néonatale, notamment, où le jeune peut être demandeur d'informations supplémentaires par la suite. On va pouvoir expliquer quels sont ses résultats génétiques, quel est le mode de transmission de sa pathologie et l'informer sur la nécessité d'un suivi au long cours à l'âge adulte et sur les ressources auxquelles il peut compter pour son suivi à l'âge adulte.
Alors pour conclure notre entretien, docteur Marquant, quelles sont les actions à mettre en place auprès de la famille d'un enfant touché ?
Lorsqu'un enfant a un diagnostic d'hypoparathyroïdie, il faut absolument, une fois la cause identifiée, pouvoir dépister les apparentés au premier degré pour dépister d'autres cas d'hypoparathyroïdie dans la famille et ainsi les traiter. Et puis, une chose très importante est de proposer de l'éducation thérapeutique pour le patient et sa famille, donc sur les mécanismes de la pathologie, les modes d'action des thérapeutiques, dans quel cas il faut adapter sa thérapeutique, donc notamment chez l'enfant, en cas de fièvre, il est recommandé d'augmenter d'environ de 30% le dosage de la vitamine D activée, du traitement par vitamine D activée que le patient prend. Donc ça, c'est important de bien l'expliquer à la famille et plus tard au jeune patient qui va devenir un jeune adulte et gérer son traitement de manière autonome.
Eh bien, merci mille fois, docteur Marquand, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est l'hypoparathyroïdie chez l'enfant. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.